Une très grosse prochaine heure avec Jacques Villeneuve qui assistait au Grand Prix du Mexique en fin de semaine. Retour sur une rare victoire des Alouettes et beaucoup plus avec Bruno Eppel tout à l'heure. Alex Agostino sur la victoire des Red Sox. On va faire notre bilan de l'impact avec Jérémy et Vincent Destouches dans quelques minutes. Mais d'abord, on accueille Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
On sait que pour les Jeux olympiques, ça se prépare longtemps d'avance une candidature. Donc, 2026, c'est en train de se décider. On pensait que Calgary allait poser sa candidature, sauf que c'est en train de dérailler la candidature de Calgary parce qu'il y a une négo à plusieurs paliers de gouvernement qui n'aboutit pas, là. Hein?
Oui, des développements en fin de semaine, Mario, qui ont jeté beaucoup d'ombre sur la candidature de Calgary, au point où le Calgary Herald écrit aujourd'hui que c'est fort possible que la candidature soit tout simplement retirée. Et si c'est le cas, Mario, ça va être un coup terrible pour le Comité international olympique qui souhaite absolument que Calgary soit candidate aux Jeux de 2026. Tu te souviens, on en a parlé un petit peu plus tôt ce mois-ci. Il y a un référendum qui est prévu à Calgary le 13 novembre. Alors, les gens sont invités à dire est-ce qu'ils sont oui ou non en faveur du fait que Calgary soit candidate à l'obtention des Jeux de 2026. Mais voilà que le maire Nenshi de Calgary a promis aux citoyens que avant de voter, il y aurait un portrait financier clair de la situation. Ce portrait-là, il venait de deux façons. D'abord, le dépôt d'un budget, et ça a été fait au mois de septembre, un budget de 5,2 milliards. Mais dans ce budget de 5,2 milliards, il y a une somme de 3 milliards qui vient des pouvoirs publics, autrement dit du gouvernement fédéral, du gouvernement de l'Alberta et de la ville de Calgary. Maintenant, comment on attache les ficelles de ces 3 milliards? Qui donne combien? Et c'est là que le bas est en train de blesser. C'est là que ça ne fonctionne pas. On ne s'entend pas entre le gouvernement fédéral, la province et la ville. En fait, c'est la province de l'Alberta qui a donné peut-être le premier coup dur à la candidature en disant qu'ils allaient donner 700 millions, investir 700 millions dans les Jeux, mais pas un sou de plus. Et puis qu'en plus, ils ne seraient jamais là pour assumer quelconque déficit, ne serait-ce que de 100 000 $. Il n'était pas question qu'ils assument. Alors là, ça a mis de la pression sur le fédéral pour qu'ils en mettent plus, mais le fédéral a toujours respecté un principe quand on veut attirer au Canada un grand événement sportif. C'est que le fédéral dit tout le temps, nous, on est prêts à mettre de l'argent public, mais on ne mettra jamais plus que 50 % de tout l'argent public qui est mis. Autrement dit, dans le cas de Calgary, pour faire une équation simple, on est prêt à donner 1,5 milliard de dollars pour les Jeux olympiques, mais uniquement si ensemble, la province de l'Alberta et la ville de Calgary donnent 1,5 milliard. Alors là, 1,5, 1,5, 3, c'est correct. Mais là, dans le moment, la composante du 1,5 milliard ville de Calgary, province de l'Alberta, là, c'est difficile parce qu'avec le 700 millions de la province, ça demande un effort financier beaucoup trop élevé à la ville. Alors là, ils ne savent plus trop quoi faire avec ça. Et là, le maire Nenshi est furieux contre le gouvernement fédéral. Il dit c'était pas vraiment clair que cette règle du 50-50 serait serait dans le dossier. Bref, il y a beaucoup d'incompréhension, mais là, aujourd'hui, là, encore une fois, selon le Calgary Herald, on se demande, est-ce que le référendum va être tenu ou est-ce que le conseil municipal va tout simplement, pour reprendre l'expression consacrée, tirer la plug avant. Alors, j'ai l'impression que là, on embarque, Mario, dans une ultime négociation entre les parties prenantes, c'est-à-dire les trois ordres de gouvernement, pour essayer d'en venir à une solution assez vite. Et je pense que cette solution-là, il faut qu'elle soit trouvée au plus tard, au milieu de la semaine. Sans ça, c'est possible qu'on n'aille pas plus loin. Alors, ça devrait être assez intéressant, politiquement parlant, ce qui va se produire à Calgary au cours des prochaines heures.
Il y a tellement de choses liées également à cette candidature, dont un nouvel amphithéâtre pour les Flames de Calgary. Bref, il y a plusieurs raisons, plusieurs éléments pour motiver une négociation qui se conclurait via une entente. Mais tu dis que ça serait une catastrophe, ou en tout cas, ce serait pas une bonne nouvelle pour le CIO. Je te le demande bien candidement, là, en quelques secondes, est-ce que ça serait une catastrophe tant que ça pour Calgary de Canada de ne pas être candidat pour 2026?
Ça, c'est une grosse question. Pour le CIO, clairement, parce qu'ils veulent absolument retourner présenter les Jeux d'hiver dans une ville traditionnelle de sport d'hiver. Et là, à l'heure actuelle, pour 2026, il y a trois villes qui sont sur les rangs jusqu'à maintenant, mais ce sont trois candidatures extrêmement fragiles. Celle de Calgary, je viens d'expliquer pourquoi.
Oui, oui.
Celle de Stockholm, en Suède. Alors, Stockholm, ils n'ont même pas l'appui, c'est le comité olympique suédois qui veut faire les Jeux d'hiver de 2026, mais ils n'ont même pas l'appui de la municipalité. Alors, la municipalité n'est pas intéressée, puis le gouvernement fédéral, là-bas, ne l'est pas tellement non plus. Et en Italie, c'est une candidature conjointe de Milan et Cortina d'Ampezzo. Et là, c'est le gouvernement fédéral qui dit, ben nous, faites-les les Jeux olympiques si vous voulez, mais comptez pas sur nous pour financer. C'est la position à l'heure actuelle. Alors, on verra si ça peut évoluer. Mais là, s'il n'y a aucune candidature qui fonctionne, le CIO se retrouve pauvre Grosjean comme dedans.
Ça me serait un scénario intéressant.
Ça serait intéressant, mais tu sais, pour revenir à ta question, est-ce que c'est une catastrophe pour le Canada? C'est sûr que non, c'est pas une catastrophe, mais d'un autre côté...
L'enflure, la démesure, peut-être qu'à un moment donné, il faut que ça arrive à un moment où il n'y a pas de ville qui veut les présenter, vos Olympiques.
Ben, c'est ça.
Ça coûte
c'est
trop
possible,
cher.
C'est
on a des déchirements politiques. Je sais pas.
Non, c'est clair que c'est certainement un scénario qui pourrait forcer à la réflexion, puis ça pourrait arriver. D'un autre côté, que tu regardes le plan
du
Comité
pas,
international, non, peut-être pas, mais tu regardes le plan du Comité international olympique, ils veulent essayer de réduire les coûts. Je sais que c'est accueilli avec un grand sourire par beaucoup de gens, mais moi, je suis tout ce dossier-là de très près depuis plusieurs années maintenant, et c'est clair qu'ils sont ouverts aujourd'hui à des aménagements qu'ils n'auraient jamais envisagés dans le passé. Je vais te donner un exemple. Pour Calgary, par exemple, deux exemples. Le dopage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut construire un laboratoire antidopage pour les Jeux à Calgary. Et là, ils ont dit non. Ce qu'on ferait à la place dans leur projet, c'est qu'on se servirait du laboratoire de Montréal puis on transférerait les échantillons à chaque jour par avion. Comme ça, on élimine là, de bâtir les coûts très importants d'un laboratoire. Le saut à ski, le combiné nordique, là, qui est une combinaison de saut à ski puis de ski de fond, ça aurait lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, parce qu'on ne veut pas construire ou rénover l'installation de saut à ski qui est à Calgary. Alors, on sauve encore des millions avec ça. Alors, tu vois que tranquillement, ils essaient de faire des choses. Puis, tu parlais tantôt de l'aréna des Flames de Calgary. La présentation du comité organisateur des Jeux de Calgary est intéressante parce qu'ils disent, écoutez, peu importe ce qui arrive avec l'amphithéâtre des Flames, s'il y en a un nouveau qui se construit puis qui est prêt en 2026, tant mieux, on va l'utiliser. Mais s'il n'est pas prêt, nous autres, on est très à l'aise avec l'idée d'utiliser le Saddle Dome à l'heure actuelle pour présenter le tournoi olympique.
C'est bon,
alors, donc, ils mettent pas cette pression-là. Alors, mais il en reste pas moins que ça coûte cher. Là. Écoute, seulement la sécurité, ça, c'est un dossier qui est important.
Oh, yeah.
À Vancouver, la sécurité, les coûts ont été estimés à 1 milliard de dollars canadiens. À Calgary, en budget, 600 millions. Est-ce que c'est réaliste, 600 millions, quand ça coûtait en 2010 1 milliard? Ça, c'est une grosse question aussi. Alors, c'est clair que les coûts sont faramineux. Et si éventuellement Calgary retire sa candidature, il y aura une réflexion à faire pour tout ça sur l'ensemble de ces enjeux par le Comité international olympique. Et les arguments que tu amènes, Mario, c'est clair qu'ils sont partagés par beaucoup de gens.
Encore quelques minutes qui nous permettent de parler un petit peu du Canadien par la bande de nos trois équipes. Tout ce que j'avais envie de dire, c'est que des plans de redressement de nos trois équipes montréalaises, celui qui générait le plus de scepticisme semble celui qui va le mieux fonctionner, même si la saison est jeune, au point où c'est pas farfelu de parler de chances de participer aux séries pour le Canadien, si la tendance se maintient, évidemment.
Ouais, ben voilà. Non, moi, je pense pas que c'est farfelu, Mario, parce que souviens-toi, l'an dernier, le Canadien a commencé ses 10 premiers matchs, une fiche de 2 victoires, 7 revers, 1 match nul. Cette année, c'est un retournement de situation vraiment intéressant avec 6-2-2. Et l'an dernier, on disait là, à la fin du mois d'octobre que les chances de participer aux séries avec ce mauvais début étaient à peu près nulles, ce qui s'est effectivement confirmé au cours des mois suivants. Là, ça veut pas dire que parce que le Canadien sur papier a un bon rang qu'il va réussir à le maintenir.
Mais c'est ça.
T'es dans le coup. Puis en plus, c'est que l'espoir est là. Les joueurs se bâtissent une confiance. Le coach retrouve une nouvelle confiance. Tout le monde est de meilleure humeur. Tu travailles dans une certaine allégresse qu'on n'a pas sentie chez le Canadien depuis très longtemps. Ça fait combien de temps qu'on a vu le Canadien heureux, là? Ça fait longtemps parce que, l'an dernier, ça a été une catastrophe. L'année précédente, les séries éliminatoires ont duré une ronde. Puis même à ça, l'année n'a pas été extraordinaire, là, même si le Canadien avait bien fait. Il y a eu un changement de coach en pleine année. Carey Price n'avait pas l'air content de Michel Therrien. L'année d'avant, c'est l'année de la blessure à Price. Ça n'a pas été une bonne année. Donc, de voir un Canadien heureux, ça fait très longtemps. Ça fait trois ans que le Canadien n'a pas été heureux. Donc, c'est un bon retournement de situation.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en même temps, tu sais, la manière que tu l'expliques, j'avais bien des images à mesure que tu parlais. Puis, tu sais, n'importe qui n'a envie, t'aimes ça de motiver pour quelque chose de faisable, de réalisable, tu sais, de pas te motiver pour des choses qui ne risquent pas d'arriver. Et quand t'as des preuves tangibles à l'appui dans ces débuts de saison que si tu fais ça, ben, t'as X résultats, ben, là, t'as un effet boule de neige qui est possible. On verra pour les blessures, là.
Exactement. Oui, les blessures, puis tu sais, les séries de matchs à l'étranger, là, il y en a pas eu encore. Tu sais, il y a encore beaucoup de défis qui attendent le Canadien, là, au cours des prochains jours puis des prochaines semaines. Mais il en reste pas moins que là, tu travailles, comme tu dis, sur quelque chose de concret.
Concret,
puis
ouais.
C'est mieux que de déjà préparer la prochaine saison. L'an dernier, on a eu l'impression qu'à partir du mois de décembre, l'équipe préparait sa prochaine saison. C'est assez long, longtemps.
C'était déprimant. Philippe, je sais que je te lance une trop grosse question pour te répondre brièvement, mais juste pour mettre la table pour ma discussion soccer avec les gars tantôt, est-ce que tu as l'impression, le fait que l'Impact rate les séries pour une deuxième année de suite, as-tu l'impression qu'il y a une partie du blâme qui revient à la direction? Puis a-t-il l'air tout seul, ça glace, sur le terrain pour créer de l'attaque en 30 secondes?
Si oui, bien clairement. D'abord, c'est la première fois depuis que l'Impact est en MLS qui rate les séries deux années consécutives. Je ne pense pas que c'est arrivé auparavant, donc c'est sûr que c'est un échec. Puis oui, je pense que toute la façon dont on a traité Piatti cette saison de la part de Joey Saputo, ça a été une erreur. Et toute cette saga-là autour de Jimmy Briand, je pense que ça n'a pas été bon pour l'équipe et on a raté l'occasion d'améliorer l'effectif. On en paie le prix aujourd'hui.
On aura l'occasion de développer très bientôt, mon cher Philippe. On se reparle plus tard cette semaine. Bonne soirée.
Entre-temps. Merci beaucoup. Salut, Mario.
Bye-bye. À bientôt. Philippe Quentin, toujours un plaisir. Dans un instant, justement, bilan de la saison de l'Impact. Jérémy Filosa et Vincent Destouches avec nous.